Il est 3h du matin à Paris, 1h de plus à Beyrouth et Tel Aviv.
Diane Berger.
Le cessez-le-feu est entré en vigueur il y a exactement 24 heures au Liban. Dès l'aube, des dizaines de milliers d'habitants ont pris la route pour retrouver les villes et les villages qu'ils avaient dû fuir à cause de la guerre. La description de cette première journée de trêve avec notre correspondant à Beyrouth dans un instant. En France, les difficultés du gouvernement Barnier menacées par la censure. Le Premier ministre a tenté de déminer les tensions avec les socialistes sans grand succès pour le moment. Nous ferons aussi le point dans ce journal sur la fin des manifestations au Pakistan. Et puis en Inde, des caméras de vidéosurveillance dédiées au suivi des animaux sauvages sont détournées pour humilier et menacer des femmes. Cela fait 24 heures, exactement 24 heures, que les habitants du Liban n'entendent plus passer les avions israéliens dans le ciel au-dessus d'eux. Il n'y a pas non plus eu d'appel à évacuer des quartiers de Beyrouth en pleine nuit. Une respiration après plus d'un an d'échanges de tirs quotidiens à la frontière et surtout plus de 2 mois de guerre ouverte sur le sol libanais. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, aucun incident grave n'a été enregistré. Paul Ralifé.
C'est une grande marche du retour, entamée dès la levée du jour, quelques petites heures seulement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Des dizaines de milliers de familles ont pris le chemin du sud du Liban, de la plaine de la Beka et de la banlieue sud de Beyrouth, faisant fi des mises en garde d'Israël et des conseils de l'armée libanaise d'attendre le retrait israélien. Mais les déplacés n'ont voulu rien entendre ni rien attendre. Ils ont été encouragés par le président du Parlement, Nabih Berri, artisan de l'accord du cessez-le-feu, qui les a poussés à rentrer la tête haute sur leur terre et dans leur maison. Des embouteillages monstres se sont formés sur l'autoroute côtière menant au Liban Sud, sur la route allant vers la Beka et dans les ruelles reliant Beyrouth à sa banlieue sud. Les occupants des véhicules faisaient lever de la victoire et brandissaient des portraits du chef historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre par Israël. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les rues désertées pendant 2 mois ont retrouvé leur animation d'antan au milieu d'énormes destructions. Beaucoup de familles ont retrouvé des maisons détruites, des commerces dévastés, mais l'ambiance était joyeuse malgré les pertes et les souffrances endurées. Paul Khalife, Beyrouth. RFI.
La guerre continue en revanche à Gaza. Une frappe israélienne a touché une école du quartier de Daraja dans Gazaville. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le bilan est de 9 morts. L'État hébreu répond avoir éliminé un terroriste. C'est dans ce contexte qu'Israël annonce faire appel des mandats d'arrêt de la CPI, la Cour pénale internationale, contre Benjamin Netanyahou et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. De leur côté, les autorités françaises ont souligné que le Premier ministre israélien bénéficiait, selon elles, d'une immunité, Israël n'étant pas membre de la CPI. Pour Nadim Houri, directeur du think tank Arab Reform Initiative et avocat spécialiste des droits humains, c'était surtout une condition obligée pour qu'Israël accepte la participation de la France à cet accord de cessez-le-feu.
On sait qu'Israël s'était opposé à ce que la France fasse partie des pays garants de cet accord de cessez-le-feu. Et ce qui a été écrit aujourd'hui dans la presse israélienne, c'est qu'une des conditions israéliennes pour accepter que la France en fasse partie, c'est que la France fasse la déclaration dont on a entendu ce matin. Pour moi, le droit international n'est pas négociable. Les obligations de tous les pays signataires du traité de Rome, dont la France, sont claires. Il y a un mandat d'arrêt issu par la Cour pénale internationale. Tous les pays membres, donc dont la France, sont tenus de le respecter. Mais en tous les cas, on va prendre ça au pas à pas. On va attendre de voir des réactions plus claires, avec des éléments plus clairs. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer à négocier le droit international, à faire des exceptions pour ci ou pour ça.
L'avocat Nadim Houri, il répondait à Nemo en pisse. En France, le spectre d'une chute du gouvernement se rapproche. Si Michel Barnier utilise l'article 49.3 de la Constitution pour le budget 2025, il s'expose à une motion de censure de plus en plus probable. Alors, le Premier ministre reçoit depuis le début de la semaine les présidents des différents groupes parlementaires. Hier, mercredi, c'était au tour des socialistes. Ils ont désormais un rôle pivot dans l'adoption ou non de cette motion de censure. Charlotte Urien-Tomaca.
Une petite heure d'entretien et les deux présidents de groupe sont ressortis plutôt en colère, comme ils l'ont fait savoir à l'issue de leur entrevue avec le Premier ministre. Chacun campe sur ses positions et pour Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, Michel Barnier ne tire aucun enseignement et ne propose pas grand-chose.
La responsabilité n'a pas été du côté de ceux qui la revendiquent. Ils ont été dans le refus de tirer la moindre leçon de la sanction de la politique qui avait été conduite depuis plusieurs années par Emmanuel Macron.
Même son de cloche pour le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner attend toujours une main tendue de la part du Premier ministre et estime qu'ils n'ont pas à être les otages de cette situation politique.
Aucun geste sérieux n'a été fait en direction des groupes de gauche. Et nous n'accepterons jamais le chantage qui pourrait nous être fait et que nous entendons, y compris dans les propos de membres du gouvernement, laissant entendre que finalement la responsabilité de garder ou de faire tomber le gouvernement reposerait sur les épaules du Parti socialiste.
Boris Vallaud refuse également de céder à la pression du gouvernement en cas d'absence de budget.
Il y aura évidemment, d'une manière ou d'une autre, un budget à Noël, même si c'est par reconduction. Les fonctionnaires seront payés.
À ce stade, la réponse des deux élus de gauche est bien de voter la censure en cas de déclenchement de l'article 49.3.
Charlotte Turien-Tomaka, du service politique de RFI. Journée tendue au Mozambique hier, le pays secoué par de nouvelles manifestations à l'appel de l'opposition qui conteste la victoire à la présidentielle de début octobre du Frelimo, le parti au pouvoir depuis quasiment 50 ans. Des rassemblements brutalement contestés dans la rue, rien qu'hier mercredi, une femme a été fauchée par un blindé des forces de sécurité à Maputo, la capitale, et un membre de la société civile évoque aussi la mort de deux personnes à Nampula, dans le nord du pays. Des heurts et des violences également au Pakistan, où un calme précaire a fini par revenir à Islamabad, la capitale, après 4 jours d'affrontements entre la police et les sympathisants d'Imran Khan, l'ex-premier ministre toujours emprisonné. Les détails avec Aïkou Schmidt.
Des employés municipaux dégagent les cendres et les débris pour faire place nette. Les policiers anti-émeutes quittent le quartier gouvernemental des Chowk car les militants du parti Tehreek-e-Insaf PTI ont battu en retraite dans la nuit. Avec à leur tête l'épouse d'Imran Khan, Bushra Bibi, tout juste sortie de prison. Aux rumeurs selon lesquelles elle et un autre proche de l'ex-premier ministre, le gouverneur Ali Amin Gandapur, auraient été arrêtés. Le ministre de l'intérieur, Mohsin Naqvi, a répondu sur un ton moqueur « Ils ont fui ». L'ancienne star de cricket, Imran Khan, qui tire depuis sa cellule les ficelles de ce mouvement demandant sa libération, risque de sortir affaibli par ce bras de fer avec le gouvernement. Le pouvoir en place, soutenu par la toute-puissante armée, ne semble pas être ébranlé par ses appels répétés au soulèvement.
Ajoutons qu'il y a eu 1 millier d'arrestations et 5 membres des forces de l'ordre ont été tués. Direction maintenant le pays voisin du Pakistan, en Inde, où du matériel censé servir à préserver la biodiversité sert aussi à intimider des femmes. Cela se passe dans la réserve de tigres de Corbett, dans le nord du pays. L'affaire est révélée par un chercheur de l'université de Cambridge. Concrètement, Pauline Glaise, du matériel pour filmer, photographier et suivre des espèces rares a été détourné de son usage originel.
Un couple surpris en pleine romance est dénoncé à la police, des femmes effrayées par des survols de drones décrits comme délibérés au-dessus de leur tête, et cette humiliation racontée par l'auteur de l'étude Trishan Simlai.
Des photos d'une femme qui se soulageait dans la forêt ont été prises par un piège photographique à distance. Des petits fonctionnaires du gouvernement les ont faites circuler sur les groupes locaux de WhatsApp et Facebook.
Or, cette forêt permet aux femmes de collecter des biens de première nécessité. Elle revêt aussi une importance sociale.
C'est un espace de liberté, d'évasion. C'est là qu'elle chante. C'est un lieu où s'enracine la culture, un lieu de tradition. C'est aussi un espace d'intimité pour préserver leur vie privée. Les villages sont des endroits extrêmement conservateurs et patriarcaux. Alors la forêt est comme un refuge pour les femmes.
Un refuge dans lequel elles s'enfoncent de plus en plus loin malgré la forte présence de tigres. Et cet usage inapproprié des appareils de surveillance de la faune peut aussi avoir un impact négatif sur la nature. Après l'humiliation d'une femme, des habitants de son village ont cassé des pièges.
Pauline Glaise, au Royaume-Uni, la police annonce que ce sont maintenant 90 femmes qui accusent Mohamed Al-Fayed d'agression sexuelle et de viol contre 60 précédemment. Les témoignages se multiplient depuis septembre et la diffusion d'une enquête de la BBC contre l'homme d'affaires, propriétaire du grand magasin londonien Harrods, décédé il y a 1 an et demi. Il n'avait jamais fait l'objet de poursuites judiciaires de son vivant. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, 8 milliards de voisins.